Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Yebamot, page 119, DAF Koufiou Tête.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Yebamot Koufiou Tête. L'Agma de Rosen Kamari qui est parti avec une de ses femmes en Khoutzlaretz. Il en a laissé une ici, et puis on l'a vu, on lui a dit que le mari était décédé. Le Pohanis, Marianne Feriboum, puisqu'elle ne sait pas quel est le statut de sa rivale, est-ce qu'elle a eu un enfant ou pas. Si elle avait une belle-mère et qu'elle n'avait pas encore de beau-frère, elle ne doit pas prendre en considération que peut-être un beau-frère qui est né. Mais si sa belle-mère est partie alors qu'elle était enceinte, Tanaka nous dit qu'elle doit prendre en considération, donc elle est bloquée. Abishai nous dit qu'elle n'est pas recherchée et donc elle a le droit de se marier qui elle veut. La Gemara demande sur la précision de la Mishnah où elle doit savoir le statut de sa tzara, parce que c'est marqué Hitzarata. Ça va nous enseigner qu'elle doit prendre en considération le risque que peut-être sa rivale a accouché, mais elle ne doit pas s'imaginer que son mari a pris une autre femme. Il a marqué dans la Mishnah qu'elle ne peut ni faire iboum ni se marier. La grande dit, boum, je comprends, pourquoi pas, parce que peut-être que sa rivale est enceinte. Et donc, quand elle ferait iboum, elle serait mariée avec le frère de son mari, ce qui est interdit de la Torah. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit de se marier? Alors, la majorité des femmes accouchent et ont des enfants, donc je devrais supposer que sa rivale a eu un enfant, et donc elle n'a pas l'obligation de iboum, donc elle pourrait se marier. Est-ce que tu vas me dire que ça va que d'après l'avis de Rabbi Meir, qui pense que l'on prend en considération même des risques lointains? Même d'après Rabbanan, qui pense qu'en général, on ne va pas d'après, on ne prend pas en considération des risques lointains. Mais c'est seulement quand Roubali Tekaman, c'est-à-dire un rov qui est devant nous, comme quand on a 9 magasins de viande, et 10 magasins de viande, 9 cachers et 1 pas cachers. Donc là, on va d'après le rov. Ou alors, dans un Sanhedrin, un tribunal, on va d'après la majorité. Mais Roubali Tekaman, c'est-à-dire un rov qu'on suppose, comme dire que la majorité des femmes accouchent, même Rabbanan sont d'accord qu'on ne va pas d'après le rov. Jagma, c'est faux. Arim, au sujet d'un enfant ou d'une enfant, est-ce qu'il peut faire Khalitza ou est-ce qu'il peut faire Iboum? Rabbi Meir nous dit qu'il ne peut faire ni Khalitza ni Iboum. Chacham dit, tu as raison au sujet de la Khalitza parce qu'il est marqué Ish. Et on le met en parallèle avec, on met Isha en parallèle, donc une femme aussi, il faut que ça soit une adulte. Mais un Katan, une Ktana, pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas de Khalitza? Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas de Iboum? Rabbi Meir leur dit, parce qu'on prend en considération le risque que peut-être qu'ils sont stériles. Et Rabbanan pense qu'on ne prend pas en considération parce que la majorité ne sont pas stériles. Donc on voit qu'on va d'après la majorité. Donc on n'a pas le choix de dire que chez nous, on va d'après la minorité, c'est-à-dire qu'on prend en considération les risques lointains. Si c'est comme ça, demande la Gemara. Arrête dans la suite de la Mishnah, il est marqué comme ça que si jamais elle avait une belle-mère, elle n'a pas à penser que peut-être elle a un beau-frère qui est né, pourquoi pas, arrête la majorité des femmes accouchent et ont des enfants. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il y a une minorité qui perdent leur enfant. Et qu'il y a 50% de garçons, 50% de fils, qui fait au final que c'est qu'une minorité de garçons. Mais si tu me dis qu'on va d'après Abimir, on devrait prendre en considération que peut-être elle a un beau-frère qui est né, la Gemara répond en vérité. Puisque Ichaz Kalashouk, c'est-à-dire que cette femme était supposée ne pas faire Iboum, puisqu'elle n'avait pas de beau-frère, c'est pour ça que Rabbi Meir, dans ce cas-là, ne prend pas en considération le risque lointain. Mais dans la Récha, on parle d'une femme qui avait une rivale et qui avait un Yavam, et donc elle devait faire Iboum, c'est pour ça qu'il prend en considération le risque lointain. On dit, moi, mais je ne comprends pas. Si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que Bémet, on ne lui permettrait pas de faire Iboum? Et pour la Gemara, dans la Récha, il y a un risque de karet, c'est pour ça qu'on lui a dit, ben, ne fais pas Iboum. Dans la Sefa, c'est quand ils sont là, c'est pour ça qu'on ne l'a pas pris en considération. L'interdit, on lui a dit, tu peux te marier avec qui tu veux. Donc la Gemara, mais qu'est-ce que ça change, je ne comprends pas. Arrête, les deux, c'est des interdits minatora, quoi. Si tu vas faire, une évaluation d'interdit, celui qui est moins grave, celui qui est plus grave, ça devrait, de toutes les façons, de le prendre en considération. Et là, nous dira, ben, la Récha, elle avait une chazaka de faire Iboum. Mis à part ça, enfin face à ça plutôt, elle avait un rov qui disait que sa belle-sœur allait tomber enceinte et donc elle ne devait pas faire Iboum. Mais la chazaka n'est pas plus forte que le rov, c'est-à-dire que dans l'absolu, je devrais considérer que sa belle-sœur a eu a eu un enfant et donc elle devrait avoir le droit de se marier. En tous les cas, c'est sûr qu'elle ne peut pas faire Iboum. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas le droit de se marier? Parce qu'il y a quand même une minorité de femmes qui n'ont pas d'enfant et donc cette minorité avec la chazaka initiale de Iboum, ça met que l'obligation de Iboum vaut quand même quelque chose, mais on a un match nul, c'est pour ça qu'elle ne peut ni se marier ni faire Iboum. Par contre, dans la Sefa, la Chazaka, c'est qu'elle avait le droit de se marier parce qu'elle n'avait pas de beau-frère. Le Rav aussi, c'est qu'elle a le droit de se marier parce que sa belle-mère, même si elle a eu un enfant, elle a peut-être eu une fille ou elle n'a peut-être pas eu d'enfant au final. Donc la majorité des tzedadim, c'est qu'elle peut se marier. C'est pour ça que quand c'est miouta de miouta, c'est-à-dire un risque lointain, aussi lointain que ça, peut-être qu'elle a eu un garçon, Rabbi Meir n'est pas d'accord qu'on soit recherché. La Gemara demande, quand il est marqué, qu'elle ne peut ni faire Iboum ni se marier. Quoi, c'est tout le temps comme ça? La Gemara nous donne deux avisés. Il nous dit qu'en vérité, par rapport à elle, elle devrait attendre 3 mois. Mais comme elle a sa rivale qui est peut-être enceinte, elle doit attendre 9 mois. Parce que si jamais elle a un enfant, la Khalitza qu'elle a fait maintenant ne servait à rien. C'est que l'enfant, et l'enfant, c'est qu'après la naissance. Donc après 9 mois, elle fait Khalitza. S'il y a eu enfant, tant mieux. Et sinon, il y a eu Khalitza. Rabbi Hanina nous dit que par rapport à elle, on devrait se suffire de 3 mois, mais par rapport à son ami, tant qu'on ne sait pas qu'elle a eu un enfant, elle est bloquée. Non, la Gemara, je ne comprends pas, mais elle n'a qu'à faire Khalitza. Explique la Gemara, c'est vrai. Mais peut-être qu'au final, elle avait un enfant. Et puisqu'elle avait un enfant, donc la Khalitsa ne servait à rien. Et donc, il faudra publier qu'elle est permise au Cohen. Moi, je dis, bah, t'as qu'à publier. Je dis, bah, oui, mais il y a des gens qui ne vont pas savoir que cette femme n'avait pas besoin de Khalitsa. Et donc, ils vont voir qu'on la marie avec un Cohen. Ils ne vont pas comprendre. La Gemara nous dit, ah bon, pourquoi est-ce que tu prends en considération ce risque? Elle est pourtant, il est marqué qu'un homme qui n'avait pas d'enfant, qui est parti avec sa femme en Khouzlaret. Il a un frère, donc on suppose qu'il devait avoir un Yiboum. Puis elle vient, elle dit, j'ai eu un fils. Et elle dit, mon fils est mort, et après, mon mari est mort. Donc, quand mon mari est mort, je vais faire Yiboum, mais Emmenet, elle doit faire Yiboum. Par contre, quand elle dit, mon mari est mort, et après, mon fils, donc elle le dit dans l'absolu qu'elle ne doit pas faire Yiboum, on ne la croit pas. Mais on prend en considération ses paroles, c'est-à-dire qu'elle ne pourra faire ni Khalitsa ni Iboum. La Gemara nous dit, mais si tu dis qu'elle doit faire ni si tu dis qu'Orgenudvaria et qu'elle fait Khalitsa mais elle fait pas Iboum, arrête, peut-être que des témoins vont venir dire et affirmer ce qu'elle avait dit c'était vrai. Et donc Béhémet a été Ptoura de Iboum, donc la Khalitsa ne sert à rien. Et donc les gens vont savoir que. Et on va devoir publier que la Khalitsa ne servait à rien. Mais d'après toi, hein, c'est un problème de faire ça. Donc, demande la Gemara, tu vois bien qu'on ne prend pas en considération le risque de que peut-être une Khalitsa ait été fait stam. La Gemara nous dit, on parle d'un cas où c'était une femme qui était divorcée de toutes les façons, donc elle ne pouvait pas se marier avec un Cohen, donc il n'y avait rien à publier. Deuxième possibilité, on parle d'un cas où elle affirme qu'elle a été enfermée avec son mari et son fils dans une méharé, donc personne ne pourra venir témoigner, c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un vienne affirmer cette violence. La Gemara nous enseigne que si jamais deux femmes qui étaient mariées avec deux frères viennent et disent nos maris sont morts, celle qui dit que mon mari est mort, elle est interdite parce qu'elle a le mari de l'autre, et vice-versa. C'est-à-dire, chaque témoignage est validé par rapport à elle-même. Mon mari est mort, mais tu n'as pas de preuve que ton beau-frère est mort aussi, donc tu es bloqué, peut-être que tu l'as fait avec vous. Si l'une des deux a des témoins et l'autre n'a pas de témoins, celle qui a des témoins, ben ça ne lui sert à rien parce qu'elle est bloquée par rapport à son beau-frère, mais celle qui n'a pas de témoins, c'est parfait parce qu'elle a les témoins de l'autre qui vont lui permettre de se marier. Une a des enfants, une autre n'a pas d'enfants. Celle qui a des enfants, évidemment, elle n'a pas besoin de. Elle n'a rien besoin puisqu'elle dit que son mari est mort, donc elle a le droit de se marier, il n'y a pas de hiboum, mais celle qui n'a pas d'enfants, elle a un problème parce que peut-être qu'elle doit faire hiboum. Si jamais ses deux frères avaient d'autres frères, et donc quand ils sont venus chacun affirmer mon mari est mort, on dit bon, madame, tu dois faire hiboum avec les frères qui sont là. Les Yavamim sont décédés. Elles ne peuvent pas se marier parce qu'on a encore on prend encore en considération que les autres frères sont en vie. Rabbi Lazar nous dit que puisqu'on leur a permis à chacune des deux de se marier, donc on leur a permis de faire iboum, donc on leur a permis à chacune de se marier, puisqu'on a considéré quand on leur a permis de faire iboum que leur mari était décédé. Donc on a affirmé que le mari de chacun est décédé, ce qui veut dire que après le décès des deux premiers, famille, chacune pourra se marier avec qui elle voudra. La Gemara nous dit que si jamais l'une a des témoins, et aussi, elle a aussi des enfants, et l'autre, elle a ni témoins ni enfants, les deux ont le droit de se marier. Celle qui a des enfants, évidemment. Celle qui n'a pas d'enfants, mais l'autre a des témoins, donc c'est suffisant. La Gemara se pose la question sur Rabbi Elazar, qui nous dit qu'on leur permet de se marier. Est-ce que c'est parce qu'il pense que le témoignage de chacune est validé pour l'autre, ou est-ce que c'est parce qu'il pense que puisqu'elles se sont mariées, on imagine que personne n'est capable de tromper sa rivale? Ad Kedekar, qu'elle-même, elle va aller se marier. En quoi c'est important de savoir? Est-ce que la rivale pourrait se marier avant le mariage de celle qui a témoigné? Si tu considères que chacune est née ménette sur l'autre, donc quand elle témoigne que son mari est décédé, eh bien l'autre pourra se marier à partir du moment où son mari est décédé, parce qu'on suppose que son beau-frère aussi est décédé, et donc elle a le droit de se marier. Mais si tu me dis que c'est simplement parce qu'elle s'est mariée, que là c'est évident qu'elle ne ment pas, alors elle ne pourra se marier, la rivale ne pourra se marier que si elle-même s'est mariée. On verra demain qu'est-ce que la Gemara va trancher. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Dans la première Mishnah du Pérec, on a vu qu'une femme qui a son mari, sa rivale qui sont partis, la femme ne pourra pas se marier tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec la rivale. On a vu dans la Gemara que pour certains, après 9 mois, elle pourra se marier après qu'elle ait fait une Khalitsa, parce que là, on aura couvert tous les problèmes. Un autre avis nous disait que même après 9 mois, elle ne pourra pas se marier parce que peut-être qu'au final, il s'avéra que la Khalitsa n'était pas bonne. Il faudra publier que la Khalitsa n'est pas bonne. Et les gens ne vont pas comprendre comment est-ce qu'on le permet de se marier avec un Cohen alors qu'ils ne sont pas au courant que la Khalitsa est pas bonne. Pourquoi est-ce que Béhémet on prend en considération ces risques? On a expliqué qu'on allait d'après Rabbi Meir qui disait qu'on était Rochèche les Miouta, mais quand c'est par rapport à sa belle-mère, c'est Miouta des Miouta, donc Rabbi Meir n'est pas Rochèche à Miouta des Miouta, c'est-à-dire que c'est trop lointain pour prendre en considération. On a vu aussi qu'il y a certains cas où on ne prenait pas en considération les risques de publication de Khalitsa, tout simplement parce que là-bas, ou alors la femme était déjà divorcée, alors parce qu'il n'y avait aucun risque que quelqu'un vienne témoigner. Une femme qui affirme que son mari est mort, et sa rivale aussi affirme que son mari est mort, eh bien elle ne pourra pas se marier parce qu'on ne s'appuie pas sur le témoignage de la seconde. Mais quand ces deux femmes ont déjà fait Iboum, on a une marloquette, est-ce qu'elles pourront se marier? La Gemara se pose la question, est-ce que c'est parce que on croit le témoignage de l'une pour l'autre, ou alors parce que quand elle s'est mariée, c'est une preuve tellement forte qu'on va permettre à sa rivale de se marier? On verra demain la réponse, d'affecter la voix au Hachem, et à demain, Bezrat Hachem.